Cube Radio.
Fred, j'ai l'impression que la dernière fois qu'on s'était vu, c'est l'année dernière.
En 2021, quelle drôle d'époque. Ça en est passé des choses, Germain, depuis qu'on a fait notre dernier enregistrement de podcast de char.
Il y a premièrement un couvre-feu qui a été instauré puis aboli aussi vite.
Faut le faire quand même.
Faut le faire quand même.
On en a vécu des choses d'un côté plus personnel, Germain. J'ai moi-même accouché.
Ben pas toi.
Ben non. Pas moi là, mais tu comprends là, j'ai créé un bébé puis là il était à terme, fait qu'il est sorti. J'ai donc
un
pris
humain a donné naissance à un humain, la
voilà.
Vie est belle.
J'ai donc pris quelques semaines pour profiter de ces charmants moments, ce qui explique le petit délai qu'il y a eu entre la dernière parution de podcast de char et celle-ci. Alors ben à tous nos fans qui se sont ennuyés, sachez que ben c'est la faute de ma fille.
Oui, et à partir de maintenant, on va te baptiser Frédéric Porte-Coulissante Mercier,
expert de minivan chez le guide de l'auto. Ceci dit, Germain, on fera pas un podcast sur les minivans aujourd'hui. Quoique, je mets ça en note parce que c'est pas un mauvais sujet. On va plutôt parler, en cette période hivernale, de conduire un véhicule électrique quand il fait moins 40.
Oui, parce que, bon, il y a du positif, bien évidemment, mais il y a aussi un peu de désagrément qui vient avec la conduite d'un véhicule électrique en hiver. J'ai pu l'expérimenter, toi aussi, et ben on part!
Alors, on part!
Mais on fait pas de bruit parce que véhicule électrique, ça fait pas de bruit.
Bon, Germain, on va commencer avec une anecdote de ton cru. Puis là, je veux préciser que tu vas probablement parler du pire véhicule électrique. Là, il y en a des pas mal plus intéressants que ça en hiver. Mais t'as récemment eu la frousse de tomber en panne avec un véhicule électrique en plein hiver. Il faisait combien?
Il faisait à peu près moins 20, là. Donc, en janvier, une
seule... Un petit fret.
Oui, un petit vent du nord, là. Mais tu parles d'un des... Probablement un des pires véhicules électriques, mais c'est aussi un des plus récents, hein, à être débarqué sur le marché. Donc, en cours d'année 2021, Mazda est débarqué avec un premier véhicule électrifié.
C'est vrai, il n'y avait pas d'hybride, il n'y avait pas de...
Pendant longtemps, hein, on nous a cassé les oreilles en nous disant qu'on allait peaufiner et améliorer le moteur à combustion de manière à l'optimiser, puis que l'hybride, on laissait ça pour les autres. Mais bon, ça a l'air qu'il va falloir arriver avec des véhicules électriques à un moment donné. Et ben, c'est comme ça qu'est arrivé le MX-30.
Avec une autonomie de 161 km quand t'as le vent dans le dos et qu'il fait beau.
Oui, exactement. Et ben la plupart de nos collègues l'ont mis à l'essai. C'est cet automne, dans le cadre du lancement.
Ça a été mon cas d'ailleurs. J'ai fait, je pense, en octobre ou novembre, là, je l'ai conduit pendant une semaine.
Ben voilà. Et effectivement, 161 km, c'est dans des conditions là qu'on pourrait qualifier d'idéales.
Absolument.
Mais la deuxième semaine du mois de janvier, c'était un petit peu
toi,
moins.
Toi, t'as eu l'excellente idée de tester ce véhicule-là en plein mois de janvier. Puis oui. Ça a donné qu'on a eu, ben on a eu le mois de janvier qu'on connaît. Là, je pense qu'il n'y a pas eu une journée en bas de moins 10. Là.
Effectivement. Donc,
ouais, il a fait froid. Hein?
Il a fait froid. C'est sûr que ça n'aide pas les véhicules électriques, surtout quand leur autonomie n'est pas à la base très, très grande. C'est le cas du Mazda MX-30. Donc, tu le mentionnais, 161 km d'autonomie. Une fois la batterie pleinement chargée, l'ordinateur de bord, moi, m'affichait une autonomie qui oscillait entre 120 et 125 km. Donc, c'est pas une perte énorme, mais on partait de tellement peu avec 160. Tu sais, en proportion, c'est gérable, mais en nombre absolu, c'est gênant. Et là, attends, là, 120, 125, c'était affiché. Là, t'as pas pris le volant, puis t'avais pas...
T'as pas mis le chauffage.
T'as pas mis le chauffage, puis là, tu m'excuseras, là, mais j'ai mis un peu de chauffage, là, comme je le fais dans
d'autres... Ben oui, il faut être confortable.
C'est ça, là, exactement. Donc, climatisation, pas climatisation, mais ventilation automatique, tout ce qui est de plus normal. J'étais seul à bord du véhicule en plus et j'ai fait exactement 110,5 km et il restait 0 km.
Zéro? Oui. C'était écrit zéro sur ton, dans, l'autonomie
en fait,
dans ta
borne. Je suis arrivé à la borne, il restait 1 kilomètre. Par le temps que je prenne la photo et que j'écrive une petite publication Facebook, il faut bien alimenter la bête des
prochaine
réseaux
étape,
sociaux.
Tu fais un TikTok avec ça.
Ah, je suis pas rendu là. J'en suis pas rendu là. Je suis un peu trop vieux. Fait que par le temps que je prenne ma photo, que je ramasse mes trucs dans l'auto, que j'écrive le petit post sur Facebook, il restait 0 kilomètre. Et là, dans les derniers kilomètres, en plus, le véhicule se met en mode...
Limp mode, quelque chose comme ça, là?
Ouais, en fait, il y a une petite tortue qui apparaît. Oui. Et en fait, j'ai déterminé que c'était une tortue, là. Peut-être que c'est pas ça. C'est peut-être une casquette à l'envers, puis on le sait pas, là. Mais un petit pictogramme de tortue.
Mais est-ce que l'auto allait moins vite?
Oui.
Ça serait logique, alors.
Oui. Mais je trouvais ça un peu rigolo. Qu'il y a une tortue.
C'est comme une tortue, faut que tu dormes dans ton char.
C'est ça. Wow. Oui, donc les accélérations étaient complètement limitées. Okay. Là. C'était vraiment... c'est pour te donner la chance d'arriver à la borne, puis c'est tout. Là,
tout est allé à une borne de recharge du circuit électrique à ce moment-là.
Une borne de recharge du circuit électrique.
Est-ce que t'es allé à la borne où tu te rendais normalement ou t'as pas pu te rendre à la maison puis t'es arrêté à la borne la plus proche?
En fait, voilà, c'est une excellente question parce que... Et les gens de chez Hydro-Québec vont trouver que je suis peut-être un peu pointilleux, mais la borne la plus près de chez moi, elle est située sur la rue Notre-Dame.
Oui.
Selon boulevard.
Ben, il y a une rue Notre-Dame dans toutes les villes du Québec. Fait que tu donnes pas beaucoup d'indices aux gens.
Ben, mettons que j'habite à Montréal.
Okay.
Et du côté nord de Notre-Dame, le stationnement est interdit entre 6h et 9h le matin pour favoriser la circulation vers le centre-ville de Montréal.
D'accord.
Ce qui est tout à fait logique.
Absolument.
Mais la borne est située...
Du côté nord,
dans la rue. Et comme je n'ai pas particulièrement envie de me lever à 5h30, quand il fait moins 25 pour aller bouger ma voiturette électrique, je suis allé à la borne la suivante, qui est comme 1 ou 2 kilomètres plus loin. Mais quand il fait moins 25, cette marche de santé se ressent, je te le confirme.
C'est froid dans les pieds.
C'est froid dans les mains. Mais voilà, donc je n'ai pas eu à faire un arrêt intermédiaire.
Okay. C'était vraiment rendu... proche de ta maison.
À destination. Voilà.
Parce que...
Il faut dire, je peux pas me recharger à la maison. Non. Je demeure en milieu urbain avec pas d'entrée de garage et des maisons collées. Donc, c'est ma réalité, mais c'est celle de ma rue entière. D'ailleurs, il y a un seul véhicule électrifié sur ma rue et c'est la très séduisante Honda Clarity.
Oh, wow! Ouais.
Donc, même pas de véhicule 100% électrique.
OK. Tu vois, je vais te donner ma petite expérience avec le MX-30, puis après, on va parler des véhicules électriques en général, là, parce que c'est aussi difficile que ça. Puis il y a des trucs même qui font en sorte que ça peut être le fun d'avoir un véhicule électrique en hiver. C'est pas juste du négatif.
Ouais.
Moi, je l'ai eu cet automne. J'ai réussi à peu près 120-130 km avec une charge.
Ouais.
En fait, c'est ce qui était affiché, mais je me suis jamais rendu aussi bas que toi, jusqu'à 1 km. Là. Chaque jour, je revenais
moi,
à la maison.
Tu sais, mon stylo, je dois l'user jusqu'à la fin.
Ouais, ouais.
Même quand je le sens faiblir, je ne le jette pas tout de suite.
Tant que l'angle te coule pas ses doigts.
Voilà.
Je comprends. Alors moi, ben c'est ça, pendant ma semaine d'essai, évidemment, tu peux pas aller super loin, mais j'avais pas à aller si loin que ça.
Tu peux aller loin, c'est juste que c'est long.
Effectivement, mais je me suis toujours branché à la maison à chaque recharge quand j'ai eu ce véhicule-là. J'ai pas de borne à la maison parce que je possède pas de véhicule électrique. Je me branchais dans la prise de 110 volts. Puis ce qui est le fun, c'est que la batterie est tellement petite, c'est une batterie de 35 kWh, que même dans le 110, je me branchais une nuit, puis le lendemain matin, le véhicule était branché à 100%. C'est un véhicule, j'ai envie de dire, d'une autre époque de par sa technologie. Mazda dit que c'est pas tous les propriétaires de véhicules électriques qui ont besoin d'une énorme autonomie. Je suis d'accord avec ça.
Oui.
Mais
quand pour moins cher, tu as une Chevrolet Bolt avec laquelle tu vas faire 400 km en
c'est
été,
ça.
Puis mec, ça tombe en bas de plus ou moins 300 en hiver,
c'est
pour
ça.
Le même prix, dans un format peut-être même un petit peu plus pratique.
C'est ça.
T'as aucune raison là d'acheter le MX-30. Là. C'est une autonomie digne de la
Mitsubishi Miel.
D'une Leaf de première génération.
À peine, c'est ça.
Mais on est en 2022, pas en 2012-2013.
Il y a un paquet de constructeurs qui offrent des véhicules tellement plus intéressant pour un prix égal ou même moindre. Là.
Puis bon, tu mentionnais que chez Mazda, on est conscient que tout le monde n'a pas besoin de 400 km d'autonomie. Et c'est vrai, il y a très peu de gens qui, dans une journée, vont parcourir 400 km avec leur véhicule. Ça, je l'accorde. Mais chez Mazda, on défend le MX-30 en disant que c'est un deuxième, voire un troisième véhicule
pas
pour
donné
un foyer.
Pour un deuxième véhicule.
D'un, c'est pas donné, puis de deux, elle est où, là, la planète, là, si on a besoin de deux ou trois véhicules par foyer? Bon, j'en ai six, là, mais ça, c'est une autre...
Moi, j'ai l'impression, des fois, que Mazda a fait « Ah ouais, vous voulez qu'on fasse un char électrique, hein? Vous nous forcez à le faire avec vos lois? »
Tiens!
Tiens, votre char électrique,
voilà.
Personne va en vouloir.
Voilà.
C'est l'impression que j'ai. Si on parle de d'autonomie réduite comme ça, c'est bien connu. C'est parce que l'autonomie des véhicules électriques, en hiver, quand il fait froid, baisse assez radicalement.
Ouais.
D'ailleurs, la consommation d'essence des véhicules à moteur thermique augmente assez radicalement quand il fait froid aussi. Comme les humains, là, je pense que les autos sont pas faites pour bien fonctionner quand il fait moins 20, moins 30. Moi, je suis pas content quand il fait aussi froid.
C'est plus difficile pour la machine.
Tout est plus difficile.
Tout simplement.
C'est ça. Puis c'est vrai pour les véhicules électriques comme c'est vrai pour les véhicules à essence. La différence, c'est qu'un véhicule à essence, même s'il consomme plus, ben, ça prend toujours bien 4 minutes de faire le plein. Ouais. Alors que un véhicule électrique, ben, même faire la recharge, c'est plus long quand il fait froid.
En fait, c'est même c'est plus long quand il fait froid.
Ben oui. C'est quand même assez long, surtout le début de la recharge, là, parce que la batterie est froide. Ceci dit, Germain, c'est pas tous les véhicules électriques qui sont sur la même longueur d'onde quand vient le temps de comparer l'efficacité énergétique en hiver.
En effet, Fred, il y a une firme qui a étudié la perte d'autonomie de véhicules électriques en hiver parce que, bon, se fier aux témoignages de l'un et l'autre, c'est pas nécessairement très fiable. Évidemment, c'est pas des données qui ont été récoltées au Québec. On sait qu'au Québec, l'hiver est particulièrement rigoureux, mais ça donne tout de même une bonne idée générale des véhicules qui sont le plus affectés par les températures froides.
Ouais, c'est une firme d'analyse de batterie, en fait, qui s'appelle Recurrent. C'est une analyse qui a été reprise sur le site du Guide de l'Auto pas plus tard que le mois dernier, Germain. Fait que les chiffres sont assez récents. On a comparé, en fait, l'efficacité énergétique d'une batterie quand il fait 70, bon, on parle en Fahrenheit, là, mais je vais le traduire. 70 degrés Fahrenheit, donc à peu près 20 degrés Celsius, versus quand on est plus proche du point de congélation, là, 20 à 30 degrés Fahrenheit, donc moins 5 à 0 degrés Celsius à peu près. Puis ce qu'on a réalisé, c'est qu'il y a des véhicules qui perdent énormément d'autonomie, alors qu'il y en a d'autres qui sont moins affectés par ça. Les modèles Tesla, notamment, ont une gestion thermique qui serait particulièrement plus intéressante avec une baisse moins intense.
C'est le cas aussi du Jaguar I-Pace, hein, un véhicule électrique qui est peut-être un petit peu plus marginal, qui s'adresse à une clientèle plus fortunée, bien évidemment, mais l'écart remarqué est tout petit, là.
Ouais, exact. Puis à l'inverse, il y a des véhicules qu'on connaît bien, notamment la Chevrolet Bolt, la Ford Mustang Mach-E aussi qui est récemment débarquée sur nos
routes. C'est Mach-E.
Ouais, un véhicule qui connaît un bon succès quand
vraiment.
Mais l'étude qui a été réalisée démontre que la perte d'autonomie est d'à peu près, en fait, qui est un peu plus de 25% dans le cas du Mach-E, on parle de 28%. Fait que c'est quand même c'est non négligeable dans le sens où si vous achetez un véhicule qui bon, le constructeur stipule, par exemple, 400 km d'autonomie. Ben, si vous avez à faire des grosses distances, ben, prenez en compte que l'hiver, ça va être réduit. Ceci dit.
Ou qu'il faudra faire
Des recharges supplémentaires.
Une recharge rapide,
exact.
Là, par exemple.
Ceci dit, un véhicule qui a 400 km d'autonomie en été va être limité à quoi? Dans le pire des scénarios, 250, 300 km. Ouais. Parce que là, on parle d'une température de moins 5 à 0 degré.
Ouais, ouais, ouais.
Évidemment, quand il fait moins 25, moins 30, comme on connaît chez nous assez souvent, ça va être pire que ça. Là. On peut parler d'une autonomie qui peut baisser de 40, voire 50% dans les pires cas.
Vois-tu, j'ai pu conduire aussi brièvement le Kia Niro électrique cet hiver. Et tu vois, on peut faire là 300 km même l'hiver. Là. Donc, c'est très bon. C'est très raisonnable. Tout à fait. Là.
Fait que le mot d'ordre, c'est juste planifier ses déplacements. Pis...
Oui, puis ça va être intéressant de voir l'évolution de ce tableau-là parce que, bon, il y a la Volkswagen e-Golf là-dedans, mais on n'a pas le Volkswagen. Oui, exactement. Mm-hmm. Donc, de suivre l'évolution, parce que bon, il arrive des nouveautés là tous les mois là quasiment là.
Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Côté conduite, toi, oui. Il y a des gens qui disent, Germain, qu'un des avantages de la voiture électrique en hiver, c'est que le centre de gravité du véhicule est plus bas de par le poids de la batterie qui est basse, puis que ça donnerait une meilleure stabilité au véhicule en conduite hivernale. Moi, j'ai jamais vraiment remarqué quelque chose d'assez flagrant de ce côté-là, mais je suis curieux de t'entendre.
Si tu ressens ça, tu dois ressentir aussi les ondes de ton micro-ondes, j'imagine, là, mais bon, en tout cas...
La lumière du bon Dieu.
Oui, voilà. Donc, non, je pense que, et là, sans porter de jugement, là, bien entendu, ça doit se passer entre les deux oreilles.
Mais
là.
Ça m'a amené à l'image. Ouais. Tu sais, les gens qui avaient des pick-up deux roues motrices puis qui mettaient des poches de sable ouais. dans, tu sais, quand il n'y avait pas de traction ouais. control puis tout ça. Ben, c'est un peu ce qu'on veut créer. C'est de mettre du poids sur le véhicule pour qu'il y ait une meilleure stabilité.
Mais il y a une différence entre mettre du poids sur un essieu puis mettre du poids dans un plancher ouais. qui est mieux réparti, là. Tu sais, c'est peut-être un peu plus précis d'avoir des batteries dans un plancher que des poches de sable dans la caisse de ta camionnette. Là.
Effectivement. Puis de toute façon, les véhicules moderne, je veux dire, il y a tellement de systèmes de stabilité ouais. maintenant avec la conduite hivernale. Même un véhicule à roue motrice arrière ouais. peut bien se débrouiller en hiver. Puis d'ailleurs, il y a plusieurs modèles électriques qui ramènent un peu cette mode des roues motrices arrière.
Et voilà, et il y a beaucoup de ben évidemment, là, la voiture électrique croît en popularité, bon, évidemment, au Québec, pour les raisons qu'on connaît. Et on est rendu loin de l'étape des early adopters, là. Donc maintenant, il y a plein de monsieur, madame, tout le monde qui se procurent des véhicules électriques. J'ai trouvé ça très rigolo dès la première neige de voir les commentaires sur les groupes de ces différents modèles-là de véhicules électriques mentionnés. Oh merde, mon véhicule est à roue motrice arrière. Je pensais pas.
T'as vu ça?
Oui, des groupes.
Ah ouais.
Bon, premièrement, des gens devront réapprendre à conduire ou à ouais. adapter leur conduite justement parce que tu sais je dis pas mal n'importe quoi mais tu passes d'un Audi Q5 Quattro à une Tesla Model
ben oui.
3
à roue motrice arrière
pardon.
Avec des véhicules puis là tu parles de la Model 3 la Volkswagen ID4 une version à roue motrice arrière la ouais. Mustang Mach-E ouais. ce sont tous des véhicules et tous les véhicules électriques ont un couple très impressionnant.
Oui, donc ça prend ça d'excellents pneus d'hiver.
Oui.
Bon, tu le disais, le poids est bien réparti. Là, on est loin des berlines des années 80 américaines là qui étaient complètement débalancées. Là, on n'est pas là du tout. Mais toujours est-il qu'il y a des gens qui sont visiblement restés un peu surpris de ça et surpris aussi de voir l'autonomie diminuer. Donc visiblement des gens qui avaient peut-être mal évalué leurs besoins, mal évalué le véhicule qu'ils se procuraient. Et visiblement qui ont été mal conseillés malheureusement.
J'ai une petite anecdote par rapport à ça. C'est pas un véhicule électrique, mais je me souviens d'un ami qui m'avait déjà dit qu'il avait loué un Car2Go. Ça existe plus maintenant, ouais. mais la compagnie Car2Go qui avait des petites Smart,
ouais.
même en hiver à Montréal. Puis mon ami m'avait dit qu'il avait loué ça puis qu'il était pris dans un banc de neige. Puis dit je pelletais puis j'étais pas capable de sortir.
Oh.
Puis j'ai dit mais quelle roue tu dégageais, les roues d'en avant?
Ben oui!
Ben
oui!
Tu vois, mais c'est parce qu'une Smart, les roues motrices, c'est en arrière. Fait que ouais. c'est ces roues-là que tu veux dégager. Puis là, c'était comme, ah! Tu sais, d'où l'importance de connaître ton véhicule puis de savoir comment il fonctionne.
Exactement. Pour déneiger les bonnes roues, là.
Quelqu'un qui s'achète ouais. une Model 3 puis qui se dit, moi, je veux le modèle le moins cher. Puis qui pense pas nécessairement que c'est un ouais. véhicule à roue motrice arrière, ben, puis, peut avoir des petites surprises. Quoique, quand tu connais le véhicule, ça se conduit très bien, un véhicule à roue motrice.
Bien sûr, avec des bons pneus d'hiver, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Mais le freinage, tu sais, la réaction au freinage est pas la même. La réaction au braquage est pas la même non plus, en dérapage. Donc, c'est toutes des notions qu'il faut avoir en tête. Là.
Absolument. On revient au véhicule électrique, Germain. Un des gros avantages d'avoir un véhicule électrique en hiver, c'est que tu peux préchauffer ton véhicule sans tuer la planète Terre.
Oui, effectivement. Donc, alors que j'étais en plein essai du Mazda MX-30, l'ami Daniel Breton m'a donné ce petit conseil.
Daniel Breton, on va juste préciser, oui. C'est un ancien collègue à
ben
nous.
Oui, nous, on l'appelle Daniel, mais il a un titre, homme.
Il a été ministre d'Environnement, Daniel, puis maintenant...
C'est un expert en mobilité électrique.
Depuis très longtemps.
Depuis avant que la mobilité électrique existe.
Il est PDG maintenant de Mobilité électrique Canada, qui est un organisme qui fait la promotion de tout ce qui est mobilité électrique.
Et qui, à mes yeux, demeure une référence très, très, très solide lorsqu'il est question de véhicules.
Très généreux. Hein? Quand on a des interrogations par rapport à X, n'importe quoi par rapport aux véhicules électriques, tu peux compter sur Daniel pour répondre au téléphone puis jaser. Puis tu y as parlé dernièrement.
Ne l'appelais pas, là, mais oui.
Alors, son numéro est le 514.
Ça apparaît au bas de l'écran.
Non, mais vous avez parlé récemment.
Oui, pendant que je conduisais le MX-30, lui aussi en faisait l'essai et il m'a dit effectivement, bon, l'autonomie, elle est ce qu'elle est. Et il m'a mentionné ce truc-là que je ne connaissais pas, de démarrer le véhicule alors que le véhicule est toujours chargé, est toujours branché à la borne. Donc, ben autrement dit, l'habitacle va se préchauffer avec l'énergie provenant de la borne plutôt que celle des batteries. Là, je suis pas ingénieur électrique, là, mais grosso
mais
modo...
Mais c'est ça. Puis quand tu vas arriver dans ton auto, ta voiture va être chaude, confortable. Donc, puis tu n'auras pas perdu un kilomètre d'autonomie.
Exactement. Donc, c'est un petit truc qui, je pense, peut être très utile. Et un autre truc intéressant à mentionner, c'est Jonathan Côté, qui est porte-parole chez Hydro-Québec et au circuit électrique, qui me mentionnait que de leur côté, ils ont observé que la recharge d'un véhicule électrique était plus efficace lorsque la batterie était chaude. Et comment on réchauffe la batterie? Ben, c'est en roulant avec le véhicule, tout simplement. Donc, c'est plus intéressant d'attendre d'être à mi-parcours, par exemple, pour recharger son véhicule plutôt que de le charger dès les tout premiers kilomètres. Alors, des petits trucs comme ça, mais ça peut toujours être utile.
Hein? C'est pas avec une bouillotte?
C'est pas avec une bouillotte, ah ben. ni avec une couverture de laine. J'ai le droit à une anecdote aussi?
Absolument.
Okay, tout près de chez mes parents, il y a quelqu'un qui a une Tesla Model S et il a deux couvertes pour la briller.
Abrier la voiture?
Ouais, genre un vieux drap fleuri, okay. Puis une couverte épaisse de déménagement. La voiture est stationnée dans la rue, puis elle est souvent abriée de cette manière.
Juste l'hiver ou été comme
l'hiver? Non, l'été.
Ah oui?
Oui.
Pour protéger la peinture, peut-être? Ou empêcher le soleil de pénétrer l'habitacle?
Ouais, mais c'est pas non plus une toile, là.
Une espèce de papier d'aluminium. Ben, pas papier d'aluminium, mais tu vois ce que je veux dire.
Pour empêcher les ondes. Non, mais par exemple... pendant l'hiver, moi, je vais recouvrir mes véhicules avec une toile pour éviter la poussière et tout, tu sais, une toile d'entreposage, c'est pas ça, là. C'est deux pauvres couvertes, là.
Eh ben.
OK.
Ça n'a pas rapport avec le fait que ce soit électrique, je pense.
Non, mais je comprends pas pourquoi.
Mais va lui demander, c'est ton voisin.
Mais c'est pas
un beau sujet de conversation.
C'est pas un voisin.
Salut, pourquoi il y a des couvertes sur ton char? Donc, en gros, Germain, posséder un véhicule électrique en hiver, ça vient avec quelques inconvénients, notamment du côté de l'autonomie qui est restreinte. Ça vient aussi avec quelques avantages. Je pense pas que c'est quelque chose qui devrait empêcher les conducteurs québécois, canadiens de se procurer un véhicule électrique. Il y a une différente réalité quand il fait moins 20, moins 30, comme c'est le cas avec les véhicules à essence. Faut juste apprendre à vivre avec cette réalité-là.
Ne ratez pas notre prochain épisode alors que nous parlerons des véhicules à hydrogène en plein hiver. Ça va durer 30 secondes.
Ça va être le fun. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. C'était Frédéric Mercier et Germain Goyer à l'animation.
C'était Philippe Séguin à la réalisation, au montage et à la musique.
Si vous avez des questions, commentaires ou n'importe quoi que vous avez envie de nous faire part, n'hésitez pas à écrire à l'équipe du Guide de l'Auto sur les réseaux sociaux. Ça va nous faire plaisir de vous lire et de vous répondre.
C'était une production Cube Radio.